Spécial, hein? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ces gens ce matin? Merci, Seigneur. Voir une jeune fille de 17 ans proclamer le nom de Jésus avec fierté, avec un chandail vert et un cœur jaune dessus, assez dégainée, puis assez ce qu'elle croit, hein? Voir un homme qui a pris de l'âge et de l'expérience et qui, après avoir entendu le témoignage, vu le témoignage de son frère, décide de croire en Jésus-Christ, ça prend un miracle, hein? Peu importe l'âge. Chacun sont venus de manière unique et différente et Dieu le savait d'avance. Mais ils ont fait un choix, leur propre choix, de suivre Jésus-Christ sans aucune contrainte, en toute liberté, et ils décident de le dire devant autant de gens. Ça prend un changement de vie. Et c'est ça qui est merveilleux lorsqu'on entend des baptêmes comme ça, de voir des gens dont la vie a été changée. Et que seul Jésus-Christ, même 2000 ans après sa mort, peut faire un tel changement dans la vie de quelqu'un, qui non, et seulement est un changement ici-bas sur terre. Il y en a qui font des changements alimentaires, il y en a qui font des changements de forme physique, ils s'entraînent, ils font des changements de carrière. Mais là, ici, un changement de vie qui apporte un impact dans l'âme intérieure, le pardon des péchés, la paix, une conscience claire, la dette des péchés enlevée et d'avoir la vie éternelle. Il y a personne au monde, personne sur terre ou qui existe qui peut offrir une telle chose. Vous êtes d'accord? Jésus-Christ est unique. Il est vraiment spécial. Et rien sur la terre ne se compare à qui Jésus est et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Ce matin, j'aimerais partager avec vous brièvement, quelque chose qui me tenait à cœur et qui se trouve justement dans cette petite évangile de Jean qu'on a distribué dans les derniers deux mois à 125 000 exemplaires. Dans le chapitre 17, on lit les dernières pensées de Jésus. J'aimerais vous inviter, vous avez vos Bibles, à aller dans Jean 17. On retrouve les dernières pensées de Jésus. Et ils sont très révélatrices, ils nous enseignent beaucoup de choses. Vous savez, on dit que les dernières pensées, les dernières paroles, les dernières actions de quelqu'un sont extrêmement significatives. J'ai entendu parler d'un homme que j'ai connu qui, un jour, a dit, « Moi, dans mes derniers moments, je vais attendre pour donner ma vie à Jésus-Christ. » Il avait décidé que ça avait de l'allure, tout ça, Jésus, puis donner sa vie à Jésus, croire en lui, qui il était, mais il n'était pas prêt à céder sa vie. Ce qu'on a chanté tantôt, « Debout, je cède ma vie, je me soumets à toi. » C'est ça, c'est cet abandon à Jésus-Christ dans le baptême qu'on témoigne publiquement. Il n'était pas prêt à faire ça. Alors, il s'est dit, « C'est correct, le Seigneur est bon, il est patient, il est gracieux. Alors, je vais attendre à mon dernier souffle et sur mon lit de mort ou dans les derniers moments, je vais décider de donner ma vie à Jésus-Christ. » Vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas comment vos histoires ont terminé. Sont tous différentes. Mais celui-ci, ça n'a pas tourné tout à fait comme il pensait. C'est un chauffeur de camion. Il y a eu un accident et juste les dernières choses qui sont sorties de sa bouche avant qu'il perde connaissance, c'était pas tout à fait ça, mettons. J'oserais même pas interpréter ou répéter en bon québécois ce qu'il a dit. C'était pas tout à fait répétable. Mais ce n'était pas « Seigneur Jésus, je te demande pardon, je sais que tu es le roi, je te donne ma vie, je suis heureux d'être ton enfant. » Ça y ressemblait pas du tout. Il a blasphémé, il était en carrosse, puis ça a sorti tout croche, puis il a perdu connaissance après ça. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Imaginez comment il était reconnaissant. Hein? Il pensait avoir la chance, à ses derniers moments, d'accepter le Seigneur, qu'il puisse recevoir le cadeau de Dieu qu'on peut mériter, celui du pardon. Même à dernière minute, et ce qu'il pensait être capable de faire et de contrôler n'était pas sous sa force, sous sa gouverne. Dieu aurait pu lui enlever le souffle à ce moment-là, sous les dernières paroles de blasphème, de colère, d'avoir perdu le contrôle. Le Seigneur lui a donné une deuxième chance. Et je vous assure que sur le lit où il s'est réveillé, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ses dernières pensées, ses dernières paroles n'étaient pas tout à fait ce qu'il pensait qu'il serait. Et finalement, le Seigneur lui a donné une deuxième chance. Parfois, on n'a pas une deuxième chance. On dit que les dernières paroles, les derniers gestes d'une personne parlent pour toute une vie, souvent. C'est quoi les dernières choses qu'il va écrire? C'est quoi les dernières affaires qu'il va dire à son enfant, à son fils, à sa femme, dans son testament? Qu'est-ce qu'on va écrire sur sa tombe? Ses dernières paroles, ses dernières pensées, ses dernières actions posées lorsqu'on sait que la mort nous attend. Jésus nous donne dans le chapitre 17 un portrait de ce qui était sur son cœur dans sa prière, dans les derniers moments. Vous savez qu'on parle de Jésus lorsqu'il est allé dans les derniers moments avec ses disciples, de Jean 14 à Jean 16. Il enseigne ses disciples. Il est au dernier souper avec ses disciples, il les enseigne. Et au chapitre 17, il est parti, comme on le raconte dans les autres évangiles plus en détail, vers Gethsémané. Et là, il a prié. Et dans les autres évangiles, on ne nous raconte pas sa prière vraiment. Elle est très courte, très brève. C'est là que ses disciples s'endorment. Ils ne tiennent pas la route avec Jésus. Mais dans Jean, chapitre 17, Jean nous raconte comment, ce n'est que sous la divine direction du Seigneur Jésus-Christ qui a pu écrire cela. Peut-être le Seigneur lui a-t-il dit après, l'Esprit lui a-t-il révélé, je ne sais pas. Mais le Seigneur a vu bon qu'on sache ces dernières paroles des mots que Jésus a priés au Père Céleste. Dans ses derniers moments d'angoisse où il sait qu'il va souffrir, il sait qu'il est entièrement homme et qu'il va souffrir toutes ces choses affreuses. Il a même de l'angoisse. Et dans cette angoisse humaine, sans péché, il demande à Dieu de le soutenir, ce que Dieu fait, le Père Céleste. Et il prie dans ses paroles. Et j'aimerais vous les lire, chapitre 17. Je vais lire peut-être pas tout au complet, mais une bonne partie, une des plus longues prières qu'on a dans les Écritures, les paroles de Jésus. Chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Dans les chapitres précédents, il disait, « L'heure est proche, l'heure est proche, l'heure est proche. » L'heure est venue maintenant. Il sait qu'il va être trahi et qu'il va être emporté bientôt, dans quelques moments après la prière. Et voici sa pensée. « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Ses dernières pensées étaient, que le nom, que le Père Céleste soit élevé par lui, soit glorifié. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ici, il parle des disciples et il va prier pour ses disciples qui vont vivre un moment difficile dans les prochaines heures, les prochains jours. Mais on va descendre un peu plus loin dans le chapitre, jusqu'au verset 17, où il continue à prier pour ses disciples. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, les Saintes Écritures, est la vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, et moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Prions un petit instant. Notre Père Céleste, c'est un privilège d'ouvrir la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et de lire ces paroles de tes derniers moments, les dernières pensées, les choses qui étaient sur ton cœur et qui pesaient lourd, et que tu as partagées dans l'intimité avec le Père Céleste. Aide-nous à comprendre ses paroles et à réaliser la puissance que ces paroles devraient avoir dans nos vies au quotidien. Chacun de nous ce matin parle à chacun de nous selon notre besoin ce matin. Seul le Dieu Tout-Puissant peut parler à chaque cœur dans cette salle d'une manière unique et personnelle. Seul le Dieu vivant peut faire cela, je te le demande. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour parler avec justesse de toi. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. On raconte l'histoire. En l'an 330, approximativement avant Jésus-Christ, vous savez ce qui se passait à cette époque? Un homme était en train d'envahir la terre et régnait sur la terre. Son nom était Alexandre le Grand. Et cet homme est en train d'envahir la terre. Et un jour, évidemment, il est approché de la ville de Jérusalem. C'était évidemment un sujet de grande crainte pour tous, puisqu'il écrasait tout le monde sur son passage. Il a fait cela jusque dans les Indes à cette époque. Il est arrivé à Jérusalem. Des choses différentes, en approchant Jérusalem, un homme, un grand prêtre, habillé en blanc, avec un chapeau spécial qui portait le nom de Dieu dessus, sur une plaque en or doré. Et il était entouré d'autres prêtres, mais c'était le grand prêtre qui portait cela et qui était devant eux. Ce grand prêtre s'appelait Jaddua. Je ne vais pas me tromper, Jaddua, c'est pas commun. C'est peut-être un nom à réfléchir pour les femmes qui sont enceintes. Jaddua. Une histoire intéressante. Jaddua s'est présenté devant cet homme. Et ce qui aurait pu arriver, c'est qu'il puisse simplement écraser tout le monde. Mais il est arrêté. Alexandre le Grand a commandé à son armée d'arrêter devant, lorsqu'il a vu cet homme-là se présenter. Ce n'était pas le linge tout en blanc. Ces hommes étaient tous habillés en blanc. C'était le nom qui était écrit sur cette plaque dorée. Et c'est Flavius Joseph qui nous raconte cette histoire, qui l'a marqué. Il a dit ceci, qu'il avait eu un rêve, et dans le rêve, c'est ce qu'il avait vu. Et lorsqu'il a vu cet homme, il s'est rappelé son rêve. Et c'est ce qui l'a fait arrêter. Waouh, c'est spécial, hein? Mais ce grand prêtre avait amené un rouleau des Saintes Écritures, parce que vous savez, à cette époque, il n'avait pas un livre, c'était un rouleau. Il a apporté le rouleau de Daniel, qui avait écrit 200 ans auparavant, et il lui a montré ce rouleau, il l'a déroulé au passage du chapitre 7 et 8, qui raconte la venue de ce grand homme qu'on décrit avec certains détails, et vous pourrez le lire à la maison, qui était un Grec et qui vaincrait les Perses. Et les détails de cet homme, certains détails qui sont dans ce texte-là, il y a d'autres détails dans d'autres chapitres. Et il lui a présenté cela. Et là, pour un moment, Alexandre le Grand a regardé ces Écritures qui décrivaient sa venue. Il a regardé à la parole de Dieu qui parlait de lui. Vous imaginez la scène? Ça devait être assez spécial. Tu paierais cher pour être là juste à côté puis de le regarder. Regarder la ville, voir le prêtre, regarder sa face, regarder le texte, qu'est-ce qu'il va faire? Et finalement, de cette rencontre et de cette prise de conscience, est venu le fait qu'Alexandre le Grand a décidé de ne pas saccager cette ville, ni de la piller, et même il a accordé du respect, de la dignité au peuple juif à cause de cette rencontre, cette journée-là. Et ce qui l'a marqué, c'est cette rencontre où ce qu'il a vu la parole de Dieu parler de lui. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus parle de vous ici. Ce qu'on vient de lire, vous avez remarqué? Jésus parle de vous. Ce matin, en votre nom, il n'est pas écrit dans le texte. Mais regardez bien le verset 21. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement. Il venait de prier pour lui-même face à la situation dans les premiers versets 1 à 5. Il venait de prier pour ses disciples qu'il a passé 3 ans avec, à former, à aimer, à les préparer à son départ. Et pourtant, ils sont tout poignés lorsqu'il arrive la situation. Et il dit, je ne prie pas juste pour eux. Je prie, et là, soulignez ce verset-là, encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ça, c'est chacun d'entre nous ce matin qui avons décidé, tout comme ces deux personnes ce matin, de croire en Jésus. Il a prié pour nous dans ces derniers moments. Et priez peut-être même pour vous qui êtes ici, qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, mais qui sait d'avance si vous allez lui donner ou non. Et que vous, vous êtes en train de vous dire, je devrais-tu donner ma vie à Jésus-Christ ou non? Vous êtes dans le combat. Lui, le sait d'avance ce que va être votre décision. Et j'espère que vous lui donnerez votre vie. Et à ce moment-là, on pourra confirmer que vous avez été appelé de Dieu et qu'il parlait de vous. Pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Des disciples ont parlé à des disciples, qui ont parlé à des disciples, qui ont fait d'autres disciples, qui ont parlé à des disciples, qui ont changé de ville, qui ont été d'une autre ville, d'une autre province, d'un autre pays, qui ont fait un voyage en bateau, qui est en train de travailler, qui ont parlé à quelqu'un dans leur voyage, et ça s'est rendu comme ça, de bouche en oreille, de disciple en disciple, à travers le monde entier, et 2000 ans plus tard, des millions de croyants de toutes langues, à travers le monde entier, croient en Jésus. C'est pas incroyable, ça? Et Jésus prie pour eux, alors qu'il est en train de contempler sa mort. Alors, si vous n'avez pas compris que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il pensait à vous, j'espère que vous le comprenez ce matin. Jésus a pensé à chacun d'entre nous qui avons cru en lui. Je dirais même qu'il a pensé à chacun d'entre nous, ceux qui même n'ont pas cru en lui. Parce qu'il était, il est prêt à pardonner tous ceux qui croiront en lui. C'est les dernières pensées de Jésus. C'est pas merveilleux, ça? Il aurait pu penser à tellement de choses. Écoutez, il sait qu'on va le battre, qu'on va mettre une couronne d'épines sur sa tête, qu'il est le roi de l'univers, le créateur, et pourtant qu'on va y mettre une cape sur le dos et qu'on va rire de lui en lui donnant des claques. Il sait qu'on va lui clouer les quatre membres à une croix. Et même dans cette souffrance, il n'y aura pas de compassion, on va rire de lui, on va se foutre de lui, pendant que son sang est en train de couler. Lui, le seul, il sait tous les gens qu'il va rencontrer dans ce parcours, et qui, à chacun d'eux, veut laisser des dernières paroles aussi, à Pilate, à Pierre, à Jean, à Marie, sa mère. Il sait tout ça, parce qu'il va en passer du monde autour de ce moment. Il sait tout l'angoisse qu'il va vivre, il sait toutes les souffrances, il sait l'abandon qu'il va vivre pendant un moment où ce qu'il va être sur la croix en train de porter mes péchés et vos péchés, et que le Père va tourner son visage pour la seule fois de sa vie où le Père se tourne de bord, parce qu'il va porter tout ce qu'il y a de plus dégueulasse sur la terre, toutes mes pensées, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que vous avez fait, vous et moi, toutes les offenses qu'on a fait à Dieu, de la petite fille sage à l'école du dimanche, à l'homme d'expérience qui décide de donner sa vie dans la soixantaine, le Seigneur savait tout ça, il le portait sur le dos, et il savait qu'il allait être seul. Et malgré ça, dans sa prière, il passe 5 versets à parler de lui et son Père. Il passe du verset 6 à 19 à ses disciples, et les versets 20 à 26 qui pensent à nous. Ça nous en dit beaucoup sur notre Seigneur Jésus. Si on devait écouter nos prières, ça nous dirait beaucoup sur nous-mêmes. Comment tant qu'on passe sur nous, ou sur les autres, ou sur la mission que nous a bien décrit Andréane, que Dieu a donnée à l'être humain. Jésus pensait à nous. Et ça, ça devrait nous toucher. Ça devrait faire quelque chose lorsque tu y penses et que tu le ressens dans ton cœur. Jésus a pensé à toi. Le Tout-Puissant Créateur priait pour toi dans ces derniers moments. Et ce qu'il avait sur son cœur, c'était qu'on croit en lui. Mais quatre autres choses qu'il a mentionnées, et je ne les expliquerai pas, je vais juste vous les mentionner brièvement. Mais il mentionne que son désir, c'était de voir Dieu le Père glorifié. Et c'est une chose que les croyants, on est demandé de faire, de voir à ce que ce qu'on fait glorifie Dieu. Ça veut dire que ça élève la personne de Dieu. Tout ce que je peux faire. Comme Jésus-Christ a fait, il dit, faites-le. Deuxièmement, il parle beaucoup de l'unité de l'Église. comment elle doit être un. Et quand on parle d'être un, on ne veut pas dire des répliques qui font toute la même affaire, qui disent toute la même affaire, qui portent toute la même cravate. On ne parle pas d'uniformité ici. On ne parle pas non plus d'unanimité où est-ce qu'on est tous d'accord sur toutes les mêmes opinions, la même pensée au complet, dans tous les domaines. Moi, j'aime ça, oui, quelqu'un d'autre, on ne l'aime pas. C'est pas ça notre point, qu'on pense tout pareil. Ni le fait qu'on soit tous unis. Tous les croyants de partout dans le monde, on est tous unis, on est tous en train de faire des affaires ensemble partout, là. C'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de la vraie unité. Celle d'avoir en commun une chose. En fait, je dirais deux choses. D'avoir cru en Jésus-Christ et donc d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous, duquel nous avons été scellés, marqués, et que toute personne dans le monde entier qui croit en Jésus-Christ avant. Ça ne veut pas dire que chaque jour, on vit sous la soumission de l'Esprit-Saint et qu'on vit rempli de l'Esprit, mais on a été marqué par l'Esprit comme enfant de Dieu. Et une même mission, celle de suivre Jésus-Christ et de partager Jésus-Christ dans le monde entier, partout autour de nous. La même mission que Jésus dit, j'ai allé dans le monde, là maintenant je les envoie, mes disciples, dans le monde. Puis ceux qui vont croire après les autres, ils vont aller dans le monde. Puis je ne les sors pas du monde parce que je veux qu'ils aient un impact dans le monde qui va entourer. Je ne veux pas qu'ils vivent sur la planète Mars isolée, sur une petite bulle toute heureuse, d'un paquet de petits joyeux chrétiens. Je veux qu'ils vivent sur la terre avec toute la vraie vie, avec toutes les vraies affaires, et qu'ils aient un impact autour d'eux parce qu'ils ont Jésus-Christ dans leur vie, que leur vie a changé, été transformée, et que ça puisse donner le goût à tous ceux qui les voient de faire la même chose, donner leur vie à Jésus et de le suivre. L'unité. Il parle aussi que l'Église puisse se sanctifier. Ça veut dire grandir, qu'elle ne reste pas comme elle est, qu'elle ne s'assise pas sur ses victoires du passé, qu'elle ne s'assise pas sur le fait qu'elle a été sauvée et que là, je peux m'assire sa grâce, qu'elle ne puisse pas prendre pour acquis tout ce que Jésus-Christ a fait, juste dire j'aime, mais qu'elle puisse aimer. Qu'elle puisse grandir dans l'amour, grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans son dévouement pour Dieu, grandir dans son adoration de Dieu, de voir combien il est grand. Qu'elle puisse devenir de plus en plus sainte. Et en fait, vous savez, messieurs, les Écritures nous disent aussi que nous, comme hommes, comme mari, on est supposés de faire la même chose pour notre femme. Il y en a qui sourient. Ouais, il faut en faire une sainte. C'est dur quand on n'est pas saint, en faire une sainte. Puis quand elle n'est pas sainte elle-même. Mais c'est la même chose. Il désire la sainteté, qu'on devienne de plus en plus comme le Père Céleste. Comme le Fils Jésus-Christ qu'on a décidé de suivre. Sanctifié, ça veut dire de plus en plus saint. Et finalement, de gagner le monde à croire pour Jésus. Puisqu'il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Et il dit que lorsqu'on va croire, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis un en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Pourquoi c'est important de croire que Jésus a été envoyé par le Père Céleste? Parce que c'est un package deal. C'est un total. Qui Jésus est? Il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est envoyé par le Père. Et le Fils de Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu pour sur le croyant qui croit et qui sont ensemble et que c'est une œuvre complète. C'est un pacte. Je ne peux pas juste dire, je crois en Dieu le Père, mais moi le Fils, ça ne m'intéresse pas, le Saint-Esprit. Oui, mais le Fils, c'est celui qui donne le pardon des péchés. Tu ne peux pas croire l'un sans l'autre. Il faut croire en celui qui l'a envoyé, le Père Céleste. Croire dans le Fils qui a été envoyé et qui est mort à la croix. Et croire aussi que l'Esprit de Dieu est envoyé pour le croyant, pour celui qui croit et qu'il nous aide à vivre chaque jour pour Jésus. Transformer, changer quotidiennement. Quel défi! Quel défi! Quatre choses qui sont sur son cœur. Vous savez, Alexandre le Grand a eu cette rencontre particulière. Malheureusement, sa vie n'a pas changé complètement. Vous savez ce qui est arrivé à cet homme? Les Écritures même nous parlent du fait qu'il a eu une courte vie. C'était annoncé d'avance. Il est mort à quel âge? Il y en a qui se rappellent? 33 si je ne me trompe pas. Dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans le mal. seul, avec plus de monde à conquérir, jeune, et même son fils, ses héritiers vont être éliminés. Et cet homme, finalement, n'a pas eu une vie qui a changé. Il a eu une rencontre, il a vu un jour les Écritures qui parlaient de lui, des projets qui avaient été faits. Mais il ne s'est pas soumis à la direction du Dieu puissant pour avoir une vie changée. L'histoire ne nous raconte pas, au contraire, beaucoup d'autres choses que cela. Maintenant, vous et moi, ce matin, on lit les Écritures. On a cette même rencontre qu'Alexandre le Grand, où on regarde les Écritures et on voit que Jésus parle de nous. Jésus parle de toi, personnellement. Qu'est-ce que tu fais avec Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que tu as décidé vis-à-vis de Jésus? Est-ce que ça fait déjà un certain temps que tu repousses cette décision d'abandonner ta vie à lui, de lui faire confiance parce qu'il le mérite, puisqu'il a sacrifié sa vie pour toi, parce qu'il est le seul qui peut faire la paix entre toi et Dieu, parce qu'il est le seul qui peut t'enlever toutes tes culpabilités, tout ce qui te hante la nuit, le jour, dans tes pensées, tout ce que tu as honte, il peut l'enlever, le pardonner. Il a tout vu, puis pourtant il t'aime. Il m'aime. Il a tout vu ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, puis il m'aime quand même. Est-ce que tu vas ressortir de cette rencontre avec les Écritures et Jésus qui parle de toi 2000 ans d'avance, comme Alexandre, en ne changeant pas vraiment ta vie à long terme, ou est-ce que tu veux laisser Dieu changer ta vie aujourd'hui? Beaucoup de recherches aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont en train de peser cette décision. Je vous invite à vraiment y réfléchir aujourd'hui. Mais aussi pour nous, les croyants, ce matin, j'aimerais nous dire ceci. J'aimerais maximiser sur une seule chose. La chose qui a été répétée le plus dans ce chapitre pour les croyants, celui d'être unis. Vous savez, l'unité, c'est une question de relation qui est basée sur notre relation première avec Dieu. Parce que si on fait une religion, c'est facile de se chicaner. Mais si on est en relation avec Dieu et que ça va bien, ça nous aide à ne pas être en conflit dans nos autres relations. Conjugales, familiales, amis, travail, à l'église, etc. Tout est une question de relation souvent. On est appelé à être unis et à être capable de se centrer sur ce qui est important dans notre unité et de laisser de côté ce qui n'est pas important. Et ça, c'est pas facile. Parce que des fois, il y a bien des affaires qui ne sont pas si importantes que je trouve importantes et que j'accroche dessus. L'attitude de quelqu'un, la réaction, une décision quelconque, des amis, etc. Décision de l'église, décision d'un professeur d'école de dimanche, une dépense de ci, un tel projet, la manière que lui ou elle m'a regardé, toutes sortes d'affaires. Hein, il y en a tellement d'affaires. Rappelez-vous de votre dernière chicane. Pensez-y, c'était quoi à la base, la raison de ma dernière chicane. Et si vous êtes comme moi, vous allez découvrir que c'était niaiseux au début. Ben niaiseux. C'était pas nécessaire de se chicaner pour ça. L'unité est basée sur le fait que Dieu, Jésus, est au centre de ma vie. Je suis prêt à laisser tolérer des choses, céder des choses. Parce que le plus important, c'est sur ça que je veux me battre. J'ai été touché dernièrement, j'ai été à Chibougamau. Plusieurs savent que je suis un petit garçon de Chibougamau. J'ai grandi là jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'ai été heureux là-bas. Et dernièrement, l'église baptiste évangélique de Chibougamau, qui a été débutée par mon grand-père en 1974, et dont mon père était un des pasteurs pendant plusieurs années, a célébré leur 35e anniversaire. Et c'était la même fin de semaine du Grand Prix. J'ai attendu, parce que j'attendais pour voir si j'aurais un appel du Grand Prix, parce que les dernières années, j'allais au Grand Prix. Finalement, j'ai pas eu d'appel. Alors, je me suis dit, je me prive pas d'aller à Chibougamau. J'ai pris mes clics, mes claques et j'ai pris trois de mes enfants. Et on est allé à Chibougamau, aller-retour pour la fin de semaine. Et je suis content d'y avoir été. L'église de Chibougamau n'est plus au paroxysme de sa gloire. L'église a diminué, comme la ville aussi a diminué. Il y a eu des moments difficiles. Et ils sont une quinzaine de personnes aujourd'hui, fidèles au poste. Et c'est intéressant de revoir les gens qui sont encore là. Mais dans la soirée, qu'on voulait remercier le Seigneur pour toutes ces bontés, deux hommes en particulier, trois ont donné leur témoignage. Un qui était justement, qui a accepté le Seigneur à travers les années-là, que le Seigneur a gardé dans ses voies, etc. Mais deux ont parlé d'un même thème, l'amour pour l'Église. Et il y en a un qui est là depuis 37 ans et qui a parlé de l'amour pour l'Église. Justement, il en a parlé, et il aime l'Église vraiment, mais il en a parlé plus théoriquement. Il a parlé du passage dans Jean qui dit qu'on doit s'aimer les uns les autres, puis si on dit s'aimer, mais qu'on aille à notre frère, comment on peut dire qu'on peut aimer Dieu, etc. Puis que c'est important, puis que ça, c'est la chose la plus centrale. Puis il en a parlé comme ça avec beaucoup de ferveur. C'était vraiment bien, c'était clair, c'était bon. Mais c'était des intellectuels. Après quoi est venu un homme qui en est toujours aussi le pasteur, qui en est toujours un des anciens aujourd'hui. Pendant plusieurs années, il a tenu l'église entre des pasteurs qui sont partis, qui sont revenus, puis des nouveaux qui sont venus, puis qui a prêché quand il n'y avait pas de prédicateur, qui s'est saigné pour cette église-là à travers 30-quelques années. C'est le frère de Antonio Bascunian, le missionnaire qu'on supporte, son frère qui s'appelle Willy Guillermo Bascunian. Il est venu en avant. Et il voulait partager, partager sa courte histoire. Et vous savez, lui, il a à peine été capable de dire qu'il aimait l'Église. Vous savez pourquoi? Parce qu'en le disant, il a commencé à pleurer. Et ça a été le plus haut moment de la soirée. Juste ça, j'étais content de m'être déplacé, tout ce que j'avais fait, juste pour ça. De voir Guillermo Bascunian verser des larmes sincères, étant à peine capable de dire comment il aimait l'Église. Et juste à le dire, il en pleurait. Il n'avait pas besoin de prêcher de sermon, pas besoin de citer de passages bibliques, pas besoin de raconter d'histoire. Tout le disait là. Hein? Il n'avait pas besoin de justification, de preuve, rien de ça. Il était là, et juste à le dire, son cœur était lourd. Et vous savez, j'étais là, à différents moments donnés, où ce qu'il aurait pu abandonner, où ce qu'il était découragé. J'ai vu cet homme-là voir des choses qui ne sont pas toujours belles dans l'Église, des gens qui s'ostinent, qui se font des choses pas gentilles, qui n'ont pas une bonne attitude. Il les a toutes vues passer, ces affaires-là, lui. Il y en a vu qui ont lâché, qui ne vont plus à l'Église depuis des années, frustrés, sclérosés. Beaucoup qui ont lâché une religion catholique pour devenir une religion évangélique et qui sont, avec le vent, partis à d'autres choses. Il y en a vu des gens passer. Des gens qui l'ont traité de ci, qui l'ont traité de ça. Il a eu bien des épreuves, bien des trahisons, bien des déceptions, et bien des occasions pour dire, « Hey, moi, j'en ai-tu assez de l'Église? Elle sait c'est quoi l'Église? C'est décevant, c'est plein de gens décevants. Puis je suis le premier dans la liste des décevants. » Parce qu'on est un paquet de pécheurs qui essaient de vivre ensemble par la grâce de Dieu, et souvent, on se plante. Hein? Mais quand il a dit, « J'aime l'Église, et qu'il a versé des larmes. Et Guillermo ne verse pas des larmes habituellement. Tu savais ce que ça voulait dire. C'était quelqu'un qui s'était saigné, qui avait aimé, et qui, malgré tout ça, savait que l'expérience de vivre en Église, pas la bâtisse, les gens qui vivent ensemble, de s'aimer malgré tout, de penser, de demander pardon quand on fait des bêtises, et tout cet effort de rester liés ensemble, parce qu'on est unis, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on a l'Esprit. Maintenant, est-ce qu'on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu? C'est une autre chose. Il savait que cette expérience-là faisait mûrir un homme, faisait savoir c'est quoi les vrais enjeux, et faisait grandir une personne à savoir s'il aime vraiment Dieu, au point d'aimer les siens, peu importe les déceptions. Et il a dit, je l'aime, l'Église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus avait ça sur son cœur. Ça. Et ceux qui viendraient à lui. Et je vous invite ce matin, croyant ou non croyant, à bien interagir avec la prière de Jésus. Qu'est-ce que vous faites de cette invitation à l'unité? Qu'est-ce que vous faites de cette invitation à croire en Jésus ce matin? J'inviterai l'équipe de louanges à s'approcher et se préparer pour terminer avec un dernier chant. Et je vous cite les paroles d'un chanteur que j'ai écouté, et j'écoutais justement ce matin, entre autres, mais j'ai traduit ces paroles, et qui est une invitation en même temps, c'est une prière du cœur de la personne, mais c'est aussi une invitation à répondre. Écoutez bien ces paroles, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer les yeux et juste écouter. En fait, c'est des paroles, vous serez peut-être surpris, mais c'est un disque qui s'appelle Pop, en 97, qui a été des paroles écrites par Bono, qui s'appelle « Wake up, dead man, réveille-toi, homme mort ». Et il dit ceci, « Jésus, Jésus, aide-moi. Je suis seul dans ce monde et c'est un monde très mélangé et confus. Dis-moi, raconte-moi l'histoire, celle au sujet de l'éternité et la manière que ça va être dans cette éternité. Lève-toi, lève-toi, homme mort. Lève-toi, lève-toi, homme mort. Jésus, j'attends ici, patron. Je sais que tu prends soin de nous, mais peut-être tes mains sont un peu prises. Ton Père, il a fait le monde en 7. Il est en charge du ciel. Peut-être peux-tu glisser un bon mot pour moi. Lève-toi, homme mort, lève-toi. » Je ne prétends pas qu'il a compris tout, mais sa réflexion est intéressante. Et peut-être vous la faites ce matin, avec quelques confusions, avec quelques interrogations. Le Père Céleste a envoyé son Fils pour chacun d'entre nous. Il désire que tu aies la vie éternelle, que tu sois pardonné de tes péchés, que tu trouves la paix et la raison d'être. Et je t'invite ce matin à prendre cette décision de le suivre. Et pour toi qui es croyant ce matin, je t'invite à être conséquent avec qui tu dis suivre et qui tu dis être baptisé avec Jésus-Christ. Et donc, l'appel à publier Jésus, l'appel à être uni avec les croyants. Soyons une Église unie et dont la marque d'amour qu'on porte les uns pour les autres, malgré nos différences, malgré que ça demande beaucoup de l'effort, que l'Esprit nous soutienne et que ça puisse avoir un impact dans cette ville que nous aimons, cette ville de Trois-Rivières, que Dieu nous appelle à avoir un impact. Levons-nous dans la tranquillité et continuons en terminant avec ce chant de réflexion. Le Seigneur a touché vos cœurs et vous êtes en réflexion, vous voulez prier, vous cherchez conseil. Je vous invite à venir voir un des responsables ici, aller voir quelqu'un de croyant autour de vous et de dire que vous avez pris une décision ce matin, peu importe ce que c'est, on va prier ensemble. Et vous pouvez aussi parler au Seigneur en même temps que moi et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Père Céleste, on te remercie pour cette journée, on te remercie pour ce temps ce matin vraiment spécial et on te prie de bénir ceux qui ont témoigné devant nous de Jésus-Christ et qu'ils veulent le suivre, que tu puisses les bénir abondamment, qu'on puisse les soutenir et qu'ils puissent tenir le flambeau, la lumière de Jésus-Christ tout au long de leur vie, jusqu'à ton retour ou jusqu'à temps que tu les appelles à toi. Merci pour ces chants, cette lecture de la parole, prière, tout ce qui s'est fait ce matin et qui encourage chacun d'entre nous à suivre Jésus. Je te prie pour celui ou celle qui combat ce matin pour donner sa vie, que tu puisses le convaincre, Seigneur, le convaincre que c'est la meilleure décision, mais que personne ne puisse le faire sans être pleinement convaincu. Et pour le croyant ce matin qui peut-être vit un refroidissement, des frustrations, des choses qui traînent, des choses à régler avec quelqu'un autour, dans la maison, dans l'église, au travail, et qui empêche de grandir et de vivre l'unité où tu nous demandes, l'unité de cœur en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint et dans l'amour les uns pour les autres. Que cela puisse être confessé ce matin et qu'on puisse grandir, devenir de plus en plus saint pour toi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous prions. Amen.